Bien. Nous allons pouvoir reprendre. Je vous avais laissé la dernière fois sur le difficile passage des ambiguïtés de la déclaration de principe aux applications concrètes à travers le processus de négociation et le maintien d'un certain niveau de violence dans les territoires palestiniens. Au passage, décodage des vocabulaires. Les Israéliens disent territoire tout court. L'ONU dit territoire occupé. Les Palestiniens disent territoire occupé palestinien. Ou par territoire palestinien occupé. Mais il s'agit des mêmes territoires. Mais c'est toujours le même problème dans ce dossier. Rien que le choix du vocabulaire en tant que tel implique déjà une certaine forme de prise de position et on est immanquablement prisonnier de ce vocabulaire puisqu'il est lui-même piégé dès le départ. Donc, cela crée un mauvais climat pour la reprise des négociations prévues pour le 13 octobre. Arafat fait toujours face à une forte opposition au sein du Fatah et de l'OLP. Plusieurs personnalités se retirent des institutions et rejoignent Damas. Les critiques des opposants visent souvent juste, mais ils sont incapables, au-delà des grands principes, de présenter un programme crédible de substitution. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire la lutte armée permettra de libérer la Palestine, mais dans le réel, elle ne permet pas de libérer la Palestine. Et donc, au moins, Arafat et ses partisans proposent une démarche concrète, tandis que ses opposants restent dans l'abstrait. Le regroupement des adversaires d'Arafat, ce nouveau front du refus, va de la gauche marxiste aux islamistes du Hamas. Les premiers par anti-impérialisme vont se laisser largement satelliser par les seconds. Le chef de l'ONP tarde à désigner une nouvelle équipe de négociateurs, alors que Rabin marque qu'il a une interprétation minimaliste de l'accord. Par exemple, le 5 octobre, il s'exprime sur la question des personnes déplacées en 1967. Je cite. Les chiffres avancés par les Palestiniens sur ce point sont un pur non-sens. S'ils s'attendent à ce que nous autorisions le retour de plusieurs dizaines de milliers de gens, ils se font des illusions. Fin de citation. Il ne peut être question pour l'instant que d'une augmentation du nombre de réunifications familiales. Tout doit être négocié, ce qui implique un droit de contrôle israélien sur la composition de la population palestinienne. Le 6 octobre se tient au Caire la première rencontre entre Rabin et Arafat. On annonce la création de 4 commissions. Au sommet, un comité de liaison se tiendra au niveau ministériel au Caire. Une deuxième commission se réunira à Taba, dans le Sinaï, avec comme charge l'application de l'accord Gaza-Jéricho, avec les questions de sécurité et du redéploiement israélien. La troisième à Washington négociera l'application de la période intérimaire dans le reste de la Cisjordanie et les modalités des élections palestiniennes. La quatrième discutera des questions économiques et de la coopération israélo-palestinienne. Arafat annonce aussi une commission chargée de Jérusalem, mais les Israéliens précisent qu'il ne s'agit que de l'accès des Palestiniens à la ville sainte, toujours soumise à un bouclage. On n'a pas évoqué une trêve dans les territoires occupés. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, le comité central de l'OLP ratifie par 63 voix pour, 8 contre et 9 abstentions l'accord d'Oslo. Sur les 107 membres du comité, 80 étaient présents. Les organisations de l'opposition ont boycotté la réunion. Du 12 au 14 octobre, la multilatérale sur les réfugiés se tient pour la première fois à Tunis. Beilin y représente Israël. Reçu par Arafat, il lui suggère la réouverture d'un canal de négociation semblable à la filière norvégienne. Le chef de l'ELP donne son accord de principe, mais ne concrétisera pas son intention. Dans la multilatérale elle-même, on s'interroge sur le fait que la question des réfugiés a été transférée aux négociations du statut final. Dans la mesure où les réfugiés des territoires occupés vont être couverts par l'aide internationale, la priorité est donnée aux réfugiés du Liban, dont on espère améliorer la situation matérielle. Le 13 octobre se tient au Caire le premier comité de coordination. Les chefs des deux délégations, Shimon Peres et Mahmoud Abbas, qualifient leurs entretiens de constructifs et sérieux. Le comité doit se réunir tous les deux ou trois semaines. À Taba, les entretiens se sont déroulés dans un climat défini comme cordial et on s'est mis d'accord sur l'établissement d'un calendrier des discussions. Le général Amnon Shahak dirige la délégation israélienne et Nabil Chart, la palestinienne. Vous voyez sur la photo. La question la plus passionnelle est celle des prisonniers. Les Palestiniens refusent la distinction faite par Israël entre ceux qui ont du sang sur les mains, des Israéliens ou des collaborateurs d'Israël, dont on n'a pas évoqué le sort, et les autres. Les Palestiniens appellent à tourner la page pour pouvoir faire la paix. Sur 12 500 prisonniers, 1 200 sont accusés d'avoir tué ou blessé des collaborateurs et 1 100 d'avoir participé à des attentats anti-israéliens. Il était aussi question des collaborateurs et informateurs palestiniens des forces d'occupation. Les Israéliens souhaitent une amnistie générale les concernant, tandis que l'OLP n'envisage que des procédures judiciaires devant des tribunaux à créer. De son côté, le Hamas annonce qu'il continuera la chasse et l'exécution des collaborateurs, ainsi que la lutte contre Israël. On se rend compte rapidement de la complexité des dossiers à traiter. Le 19 octobre, Rabin convient qu'il ne sera pas possible de tenir le calendrier prévu de 2 mois pour arriver à un nouvel accord. Très vite, les principales difficultés surgissent. Les Palestiniens veulent obtenir tout ce qui pourrait apparaître comme des signes de souveraineté, tandis que les Israéliens s'en tiennent à une vision des plus limitées des compétences accordées à l'autonomie. La question des prisonniers se rajoute à ce contexte. Pour les Palestiniens, on ne peut vraiment pas parler de réconciliation si des milliers d'entre eux restent dans les prisons israéliennes. Pour les Israéliens, il s'agit de terroristes qu'il serait trop dangereux de libérer en masse. De surcroît, ils considèrent qu'il doit y avoir des contreparties à ces libérations. Les Américains, Denis Ross en tête, sont en liaison constante avec les deux parties, tout en ne participant pas directement aux négociations. Sans trancher sur l'interprétation à donner à l'accord d'Oslo, ils reconnaissent que la priorité est de changer de façon tangible les choses sur le terrain. Les Américains cherchent aussi à réactiver la négociation israélo-syrienne. Mais Rabin ne veut pas en entendre parler avant la mise en application de l'autonomie palestinienne. Assad, lui, se plie aux règles du jeu diplomatique qui lui permet de maintenir un dialogue direct avec l'administration Clinton, tout en se faisant le protecteur du nouveau front du refus palestinien. Le 24 octobre, 2 soldats israéliens revenant de la bande de Gaza sont tués dans un attentat revendiqué par la résistance islamique, alors qu'Israël annonce la libération de 700 prisonniers, des mineurs, des personnes âgées, des femmes, des malades et surtout ceux qui soutiennent la poursuite du processus de paix entre Israël et l'ONP, ce qui exclut les islamistes et la gauche palestinienne. Netanyahou dénonce cette récompense du gouvernement Rabin aux Palestiniens pour leurs attentats. Les libérations à venir sont considérées par les négociateurs israéliens comme une carte dans le processus général de la négociation. Le 30 octobre, un colon est enlevé et assassiné en Cisjordanie. Les colons se lancent dans une intifada juive, s'en prenant à la population palestinienne et à ses biens matériels. Rabin les assimile au Hamas, ce qui fait redoubler leur fureur. Je cite. Il y a des ennemis et des adversaires de la paix. Les ennemis de la paix palestiniens ont tué un Israélien parce qu'il était juif. Les adversaires de la paix du côté israélien ont jeté des pierres et brûlé des voitures parce qu'ils visaient des Arabes. Notre devoir est d'emporter sur ses ennemis, sur les ennemis et sur les adversaires de la paix, car chacun peut porter une atteinte au processus de paix qui s'est engagé. Fin de citation. Arafat, de son côté, fait une visite officielle en France, 21-23 octobre, où il est reçu quasiment en chef d'État. Indépendamment des questions politiques, les grands travaux à prévoir en Palestine sous financement internationaux intéressent les entreprises françaises. Lors des élections municipales de Jérusalem, le 2 novembre, le vieux maire travailliste Teddy Kollek, premier magistrat depuis 28 ans, perd la mairie au profit d'une coalition du Likoud et des Juifs orthodoxes menée par Ehud Olmert. Ce grand bâtisseur avait surtout réussi sa communication, faisant croire à une réelle unification de la ville sainte, alors qu'il avait surtout travaillé à établir des Juifs à Jérusalem-Est. L'opposition des populations reste totale et sa politique a été très discriminatoire envers la population arabe, à qui les services sociaux distribués sont très faibles et les permis de construire accordés avec la plus grande parcimonie. Le problème majeur de la municipalité demeure la faiblesse de ses ressources financières due à la pauvreté d'une grande partie de la population, juifs, religieux et habitants arabes. La défaite travailliste affecte le gouvernement Rabin. Netanyahu triomphe. Les habitants de Jérusalem ont préféré l'alliance entre le Likoud et les partis religieux à celle des travaillistes avec l'OLP. Je conseille à Rabin de méditer le message. Fin de citation. Rabin accepte la responsabilité de la défaite électorale municipale, mais considère qu'elle ne remet pas en cause le processus de paix. De toute façon, Jérusalem restera la capitale éternelle unifiée d'Israël. Je n'ai pas besoin du Likoud pour le démontrer. Fin de citation. À Tabar, il se révèle rapidement que les propositions israéliennes de redéploiement et non de retrait apparaissent plus qu'insuffisantes pour les Palestiniens. Pour le chef de la délégation palestinienne, Nabil Shart, cela reviendrait à transformer la bande de Gaza en une suite d'îlots séparés les uns des autres par des colonies israéliennes ou des routes contrôlées par l'armée. Pour son homologue israélien, le général Amnon Shaak, non seulement ce plan est logique, mais il est essentiel pour la sécurité. Les négociations sont ensuite suspendues pendant 9 jours pour reprendre à huis clos au Caire le 8 novembre. Parallèlement, à Tunis, les services palestiniens arrêtent 2 cadres supérieurs de l'OLP, coupables d'espionnage au profit d'Israël. Ça, c'est le fruit des avertissements français qui, après l'assassinat d'un responsable de l'OLP à Paris, avait prévenu l'OLP qu'il y avait certainement des taupes au sein du gouvernement de Tunis. Il est aussi probable que ces agents ont informé les Israéliens du sérieux des intentions palestiniennes lors des discussions de Norvège. Pendant ce temps-là, Peres est partisan du maximum d'efforts à faire du côté jordanien au moment où le roi Hussein est en train de reprendre le contrôle de la vie politique. Le 2 novembre, Peres se rend en visite secrète à Amman. Le ministre israélien développe sa vision mirifique d'une coopération économique israélo-arabe. On se met d'accord sur le principe d'une grande conférence internationale réunissant les milieux d'affaires sur l'avenir économique de la région. Plus concrètement, on s'entend sur les principales modalités de la paix. Israël rétrocédera à la souveraineté jordanienne les terres qu'il occupe dans le Wadi Araba et aux abords de la mer Morte, mais elles resteront louées aux Israéliens pour une somme symbolique. Les deux pays établiront des relations diplomatiques normales avec échange d'ambassadeurs et coopéreront dans les domaines de l'agriculture, du transport, du tourisme et dans le développement des ressources énergétiques. Israël usera de son influence aux États-Unis pour faciliter la question de la lourde dette jordanienne. Le dinar jordanien restera avec le shekel, la monnaie officielle des territoires occupés. L'État hébreu protégera la Jordanie contre une éventuelle agression d'un troisième pays. Le monarque confie qu'il s'inquiète sur son état de santé et qu'il veut que le traité de paix avec Israël fasse partie de l'héritage qu'il laissera à son successeur. Euphorique, Pérès rentre en Israël et annonce à la presse que le 3 novembre sera une date historique. Cela provoque une crise entre les deux pays. Le roi Hussein fait savoir à Rabin qu'il n'y aura plus de rencontre si les Israéliens ne tiennent pas l'engagement de totale confidentialité. Le premier ministre retire à son ministre des Affaires étrangères le dossier jordanien, confié maintenant à l'entourage de Rabin. Ephraim Halevi, Haber et le général Denny Yatom sont donc les trois responsables de la négociation avec la Jordanie. Clinton, s'appuyant sur les affirmations de Pérez, croit que le traité de paix est imminent et propose la signature à la Maison-Blanche pour la mi-janvier. Le roi Hussein est contraint de démentir et il paraît de nouveau aux Américains se maintenir dans ce refus de passer à l'acte. Sa crédibilité est entamée. Les élections jordaniennes dites apolitiques du 8 novembre donnent les mains libres aux monarques et écartent les islamistes et la gauche des fonctions de responsabilité. Les fidèles du palais détiennent maintenant les postes de responsabilité. Le processus de paix implique une régression politique après la démocratisation relative des années précédentes. Halevi devient le principal interlocuteur israélien du monarque, qui ne veut pas voir les intérêts de son pays sacrifiés dans une paix israélo-palestinienne et israélo-syrienne. Le monarque fait savoir que pour l'instant, il lui faut apaiser la Syrie et ralentir le rythme vers la paix. Sur le plan économique, la Jordanie obtient le droit de rouvrir ses banques en Cisjordanie, ce qui provoque la méfiance de l'OLP qui craint une tutelle économique jordanienne sur les territoires durant la période d'intérim. Le 6 novembre, un rabbin porte-parole du Gush Emunim est blessé et son chauffeur est tué dans un attentat en Cisjordanie. Le lendemain, les colons mènent de violentes manifestations anti-gouvernementales et s'en prennent à la population arabe. Rabin exprime son profond regret et tient à souligner que l'OLP n'a perpétré aucun acte de terrorisme. Faisal al-Husseini accuse le gouvernement israélien de mener une politique de deux poids, deux mesures dans le rétablissement de la sécurité dans les territoires occupés et de ne pas réprimer suffisamment les agressions des colons qui se continuent durant plusieurs jours. Arafat est contraint par les pressions américaines et israéliennes de condamner publiquement les attaques menées contre les colons israéliens. Cet acte est très mal pris dans les territoires occupés où l'on rappelle qu'une vingtaine de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le 13 septembre. Les futurs bailleurs de fonds le somment de composer une administration pour gérer l'aide plutôt que de ne faire que des nominations politiques et clientélistes. Ces critiques sont relayées par un certain nombre de personnalités des territoires occupés et de la diaspora qui rejettent son mode autocratique de gouvernement. Le chef de l'OLP est forcé d'écourter ses voyages à l'étranger pour faire face à cette nouvelle contestation. On ne se rend pas compte de l'ampleur du défi que doit affronter Arafat. Il lui faut prendre le contrôle des forces paramilitaires du Fatah dans la bande de Gaza, qui sont sensibles aux arguments des opposants à la déclaration de principe. Un certain nombre de cadres sont convoqués à Tunis, interrogés et parfois détenus temporairement. En maniant habilement la répression et les incitations à rejoindre l'aide civile du mouvement, Arafat joue une nouvelle fois du clientélisme afin d'éviter d'avoir recours à la force. En dépit de l'existence d'une vraie société civile, l'état de violence dans lequel se trouve ce territoire ne prédispose pas à l'émergence immédiate d'un état de droit. Si des progrès concrets sont enregistrés dans les négociations, les principales difficultés demeurent. Contrôle des axes routiers de la bande de Gaza par les Israéliens et périmètre des colonies dans ce territoire, contrôle des frontières avec l'Égypte et la Jordanie, étendue de la zone de Jéricho, libération des prisonniers palestiniens. L'ambiance n'est pas favorable à la confiance. On semble retomber à un niveau de violence d'avant l'accord du 13 septembre. Faisal al-Husseini demande l'envoi d'une force internationale pour protéger la population palestinienne des exactions des colons. Il est vrai que les autorités israéliennes hésitent à utiliser l'armée pour réprimer les colons. Cela pourrait poser de grandes troubles dans ses rangs et remettre en cause sa cohésion. Il y a de fait une interaction croissante dans cette période entre l'armée et les mouvements de colons. Avec la montée du niveau de vie en Israël, la vieille classe dirigeante au sens large du terme des fondateurs de l'État d'Israël est de plus en plus réticente à s'engager dans l'armée. Il y a une bourgeoisie un peu youpie, si vous voulez, bobo, on dirait en français, qui s'engage moins dans l'armée, en particulier dans le corps permanent des officiers, alors que l'armée recrute de façon croissante dans le milieu des religieux, nationalistes religieux et des colons. Donc il y a un problème qui est en train de se constituer du fait qu'une partie de l'encadrement de l'armée israélienne vient tout simplement des mouvements nationalistes religieux favorables à la colonisation. Donc il leur est difficile d'exercer une véritable répression contre les colons. On est aussi, dans les années 1990, ça c'est un phénomène général dans le monde, c'est le fait qu'on est en train lentement d'abandonner les armées de conscription pour aller vers des armées professionnalisées à cause de la complexité technique croissante des processus militaires. Et donc Israël connaît le même phénomène que les autres pays de son point de vue, même s'il faut évidemment maintenir une importante armée de conscription. Mais disons qu'il y en a un problème de professionnalisation de l'armée israélienne qui est assez clair dans les années 90, qui se continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais plus l'armée se professionnalise en Israël, plus elle a tendance à recruter dans les milieux de la droite religieuse. Et c'est là un vrai problème pour l'avenir de l'État d'Israël, c'est-à-dire une certaine forme de politisation de l'armée israélienne. Il faut dire qu'avant, l'armée israélienne était aussi politisée, mais à l'époque de Ben-Gourion, mais elle était politisée dans l'autre sens. Elle était tenue par l'élite socialiste de l'État d'Israël. Mais là, il y a glissement de la gauche vers la droite. D'où ce problème de cohésion par rapport aux colons. Alors, de façon plus générale, le gouvernement Rabin est embarrassé par la contestation de la droite et des colons. L'atmosphère n'est pas propice à des concessions dans la négociation et la partie palestinienne se trouve dans une situation analogue. Là, vous voyez sur cette photo de l'époque, on parle d'une nouvelle révolte des pierres en Cisjordanie. Le 24 novembre, le chef des commandos armés du Hamas est tué à Gaza par les gardes frontières israéliens. Barak salue cette grande victoire sur le terrorisme. Le Hamas proclame 3 jours de deuil dans la bande de Gaza. La journée du 25 novembre connaît une flambée de violence sans précédent depuis la signature de l'accord. Le deuil est complètement respecté dans le territoire et même partiellement suivi en Cisjordanie. Les violences durent plusieurs jours, s'apaisent provisoirement puis reprennent avec force au début de décembre. On est alors à 10 Israéliens et 29 Palestiniens tués depuis le 13 septembre. Rabin marque que la date du 13 décembre n'est pas sacrée et qu'il vaut mieux retarder l'application de l'accord de 2 ou 3 semaines et éviter les malentendus. En revanche, Arafat la pose comme inviolable. Au début de décembre, l'OLP réclame une intervention rapide des coparins du processus de paix, les États-Unis et la Russie, et dénonce les atermoiements d'Israël responsables de l'impasse qui menace la crédibilité du processus engagé. La réplique de Rabin est claire, je cite, « Les Israéliens et les Palestiniens ont signé l'accord d'Oslo sans aucun parrainage. Pour mettre en application cet accord, nous n'avons pas besoin d'oncle, de père, de grand-père ou de grand-mère. » Fin de citation. « Il n'est pas question d'une rencontre immédiate avec Arafat. » Début de citation. Pour le moment, l'important est de poursuivre les négociations dans les commissions. Sans ces travaux, une rencontre n'aurait aucune raison d'être, dans la mesure où nous ne pourrions pas cerner les divergences. » Fin de citation. Il critique le communiqué de l'OLP sur l'impasse de négociation. Début de citation. « Ce communiqué vise à créer une crise artificielle. Cela fait partie des négociations. Parfois, on fait monter la tension en créant des mini-crises. Parfois, on la fait baisser. » Fin de citation. Les Américains ont suivi quotidiennement l'évolution de la situation. Ils sont en contact régulier avec les intéressés. S'ils ne peuvent se poser en arbitre puisque ces fonctions leur est refusée, ils se voient en facilitateurs. En dépit des restrictions budgétaires, ils se sont engagés à maintenir leur aide civile et militaire à Israël tout en contribuant financièrement à l'amélioration de la condition des Palestiniens. Ils s'inquiètent de la remontée de la violence dans les territoires occupés. En Israël comme dans les territoires occupés, le camp de la paix se trouve affaibli. Il est donc temps que Christopher fasse une nouvelle tournée au Proche-Orient. Elle commence le 3 décembre. Rabin a fait comprendre à Ross et Christopher qu'il n'est pas question pour l'instant de renouveler le message du mois d'août précédent sur un retrait complet du Golan contre une paix totale. La priorité doit être donnée aux Palestiniens et à la Jordanie avant toute négociation sérieuse avec la Syrie. La faiblesse de sa position parlementaire ne lui permet même pas d'en faire plus, puisqu'il n'a pas la majorité des votes des députés juifs. À Damas, l'équipe américaine tente des manœuvres de diversion, mais Assad exige une réponse claire sur le sujet. Il laisse entendre que si la Syrie est tenue à l'écart du processus de paix, elle mettra tout son poids contre ces derniers. Il fait en même temps des gestes positifs, comme l'autorisation accordée aux derniers juifs syriens de quitter le pays, ou l'acceptation de recevoir une mission américaine chargée de collecter des informations sur les disparus en action israéliens au Liban, dont Ron Arad. Cette mission ne trouvera rien. En récompense, on lui offre l'invitation à une rencontre avec Clinton à Genève en janvier. Arafat fait tout un numéro théâtral au secrétaire d'État, se plaignant des atrocités israéliennes et des violations aux engagements pris. S'il n'y a pas d'accord avant le 13 décembre, toute la région serait affectée par ce désastre. Impassible, Christopher en tire la conclusion que le chef de l'OLP ne se comporte pas en négociateur rationnel et que, surtout, il n'est pas fiable. Il faut dire qu'en dehors de sa courtoisie de juriste, le secrétaire d'État a plutôt une opinion négative de ses interlocuteurs arabes, avec qui aucune sympathie ne s'établit, contrairement à ses rapports avec les Israéliens. Un second entretien, le 12 décembre à Tunis, Arafat se montre plus pragmatique et promet qu'il n'y aura pas de crise en cas d'absence d'un écart immédiat. En fait, en marge du voyage du secrétaire d'État, des progrès ont été enregistrés. Amnon Shaarak, le chef de Shin Bet, a réussi à établir d'excellentes relations de travail avec Mohamed Dahlan, chargé de la sécurité de la bande de Gaza, et Jibril Rajoub, chargé de celle de la Cisjordanie. Ces deux responsables de l'OLP parlent couramment l'hébreu, ayant passé respectivement 5 et 12 ans dans les prisons israéliennes. D'ailleurs, quand les Palestiniens voyaient arriver des immigrants russes qui parlaient très mal l'hébreu, ils disaient « Vous devriez les mettre quelques années en prison, comme ça ils sauraient mieux l'hébreu. » C'était une blague palestinienne, mais ça remonte à une certaine efficacité. On discute de la façon dont les services de l'OLP prendront en charge la coordination de la lutte contre le terrorisme. Les négociateurs israéliens sont prisonniers de leurs propres contradictions. Ils veulent que la future police palestinienne mette au pas les opposants au processus de paix, Hamas et gauche palestinienne, mais en même temps que ses effectifs et son armement soient limités. De façon hétéroclite, on prend les premières mesures de formation de cette police en puisant dans les milieux du Fatah et de l'ALP, l'armée de libération de la Palestine. Il est évident pour tous qu'en dépit des déclarations vertueuses sur l'apolitisme des futures institutions palestiniennes, l'essentiel du recrutement de la police se fera dans la mouvance du Fatah et de ses satellites politiques. Les Israéliens, les donateurs de fonds internationaux et Arafat ont pour intérêt commun que l'autonomie palestinienne à établir soit étroitement identifiée avec le Fatah. D'ailleurs, des adhérents à d'autres mouvements palestiniens quittent leurs organisations pour rejoindre le Fatah dans l'espérance de trouver là-bas un emploi. la Jordanie et l'Égypte offrent des centres d'entraînement au programme de police, mais évidemment différents. Les pays donateurs rechignent à offrir leur aide parce que cette mission n'est pas très attractive et promettent d'envoyer du matériel souvent de seconde main avec le risque d'incompatibilité entre ces composantes. Le 11 décembre, Peres rencontre Arafat à Grenade en marge d'une réunion de l'UNESCO. L'exposé est franc des deux côtés. Le premier expose l'importance essentielle qu'Israël accorde aux questions de sécurité. Le second fait le fait qu'il n'est pas question d'accepter la constitution d'un Bantoustan palestinien. Le 13 décembre, une réunion plus officielle a lieu au Caire entre Rabin et Arafat. Le chef de l'ALP concède qu'Israël a le droit de se défendre des menaces stratégiques contre son pays, mais exige que les Palestiniens gèrent librement leurs relations avec le monde extérieur. Rabin lui explique que la sécurité extérieure d'Israël doit être comprise à deux niveaux. Toute personne entrant dans les territoires autonomes depuis l'Égypte ou la Jordanie entre de fait aussi en territoire israélien puisqu'il n'y a aucune frontière séparant Israël des territoires. Deuxièmement, l'autorité palestinienne n'aura que des forces de police chargées du maintien de l'ordre et donc incapable d'assurer la protection des frontières qui doit être à la charge d'Israël. La franchise des dialogues permet de passer sans encombre la date butoir. Rabin charge Peres de reprendre la gestion complète du dossier des négociations et marque la fermeté de ses intentions. Je cite, « Je n'ai aucune intention, et j'en suis sûr que c'est aussi la position du gouvernement, de faire la moindre concession sur les questions de sécurité. J'ajoute que, pour ce qui me concerne, aucune date n'est sacrée, ni le 13 décembre, donc c'était la date théorique de la fin des négociations, ni le 13 avril, qui est la date théorique de la fin du retrait israélien. L'essence du problème réside dans la définition de la sécurité israélienne, qui comprend tellement de demandes qu'elle implique pratiquement le maintien de l'occupation sous une autre forme. Contrairement à la déclaration de principe, ce ne sont plus les diplomates de carrière qui dominent, mais l'appareil sécuritaire israélien. L'état d'esprit général est une profonde méfiance envers le monde extérieur en général, le monde arabe et islamique en particulier, et avant tout envers les Palestiniens. Israël doit assurer seul sa propre défense parce qu'il ne peut compter sur personne. L'usage de la force doit assurer la dissuasion vitale pour le maintien de la sécurité. Toute concession est un signe de faiblesse qui en entraîne d'autres. En se revendiquant de la franchise brutale qui caractériserait les rapports interpersonnels entre Israéliens, on se comporte avec un ton d'assurance agressive, d'autant plus que l'on méprise plus ou moins ouvertement l'interlocuteur palestinien, qui, faut-il le rappeler, était jusqu'à peu de temps encore considéré comme un terroriste continuateur du nazisme. On retrouve le schéma habituel du comportement israélien, une inquiétude permanente pour la survie, même qui se traduit par un recours à la démonstration de force. Au-delà, c'est la relation coloniale qui ressurgit. L'autre est à la fois un danger mortel qu'il faut contrecarrer et un être faible que l'on méprise. Bien sûr, avec le temps, des relations amicales peuvent se construire entre interlocuteurs à qui on demande des nouvelles de la famille, mais les paramètres sécuritaires restent omniprésents. Tout danger identifié doit être paré par une clause juridique contraignante. Rien ne doit échapper au crible minutieux des exigences sécuritaires. On le voit ainsi dans l'usage du droit. On en rejette les grands principes comme le droit à l'autodétermination ou la légalité internationale définie par les résolutions de l'ONU pour multiplier les micro-clauses contraignantes. Plus exactement, les obligations palestiniennes doivent être définies avec une extrême précision, tandis que les engagements israéliens sont formulés de la façon la plus vague. Comme il n'est pas question d'accepter un arbitrage extérieur, c'est l'interprétation du plus fort qui doit l'emporter, c'est-à-dire celle d'Israël dont la survie est perpétuellement en cause. Les considérations plus larges d'esprit des diplomates de carrière sont considérées comme trop imprécises, donc dangereuses. On ne veut pas se rendre compte que c'est l'accumulation même de considérations de sécurité qui constitue le risque suprême pour cette même sécurité. Arafat peut d'autant moins céder qu'une telle situation verrait le triomphe de ses adversaires islamistes alliés à la gauche palestinienne. mais en même temps, il est en position de faiblesse, n'occupant toujours pas de position sur le terrain. De plus, l'OLP, Mouvement de Libération Nationale, n'a ni les compétences immédiates pour se saisir de la gestion des territoires et pratiquer la construction d'États, ni les moyens financiers pour le faire avant l'arrivée de l'aide internationale. Le style de gouvernement autocratique d'Arafat complique singulièrement la tâche. Il se refuse à déléguer des pouvoirs et joue des rivalités d'ambition dans son entourage au détriment de l'efficacité des démarches entreprises. Le fait qu'il est presque perpétuellement en déplacement complique encore plus les choses, puisqu'en dernier recours, c'est lui qui décide, même pour des affaires de faible importance. Même si l'échéance du 13 décembre avait été respectée, l'OLP aurait été incapable de commencer à prendre en main la gestion des territoires occupés. Les négociateurs palestiniens arrivent ainsi dans une situation d'impréparation et de manque de connaissance des dossiers. Les gens de l'extérieur n'ont qu'une vision imprécise de la situation des territoires occupés. Ils ne disposent pas d'un savoir statistique administratif. La brutalité du comportement israélien les impressionne. Connaissant la faiblesse de leur position, ils espèrent perpétuellement dans un recours américain. Au-delà, les concessions actuelles n'ont qu'une portée relative, puisqu'elles ne concernent que la période intérimaire et que tout sera ouvert pour la discussion finale. C'est là tout aussi le piège de la déclaration de principe. Étant donné que tout va être remis en jeu dans la négociation finale, les étapes intermédiaires ne sont pas considérées que comme des solutions temporaires. De l'ambiguïté du discours de Rabin, ils ont compris qu'il y a un gel effectif de la colonisation et que donc rien d'irrévocable ne se produira dans la phase de la constitution de l'autorité palestinienne. À l'époque, je discutais avec des gens qui travaillaient sur la question et j'avais dit que tant que les Palestiniens ne perdraient rien sur le terrain, ils pourraient continuer le processus. Mais s'ils perdaient sur le terrain, ils seraient contraints d'arrêter le processus. Et alors, c'était devenu à l'époque, je ne sais plus, la phrase de Lawrence ou le théorème de Lawrence qui était ressorti dans un certain nombre de réunions. On m'avait donné la paternité de cette analyse dans le petit milieu des experts, hein. Pas au-delà, je vous rassure. En même temps, la force d'Arafat réside dans sa faiblesse. La communauté internationale et les États-Unis ont trop investi dans les accords d'Oslo pour les voir échouer. Le gouvernement Rabin peut certes profiter momentanément de son attitude de fermeté, mais en dernière analyse, ne peut pas non plus se permettre un échec qui remettrait en cause tous les gains remportés jusque-là. Déjà, en remettant en cause le calendrier, il laisse planer une menace sur l'ensemble de la dynamique du processus de paix, qui, en dernière analyse, doit reposer sur le sentiment de réconciliation et non d'opposition des populations. La solution réside dans l'aménagement formel d'un certain nombre de points essentiels afin de ménager la susceptibilité nationale des Palestiniens et dans l'articulation avec la phase finale qui seule en théorie doit être créatrice de droits définitifs. Autrement dit, l'OLP pourra se permettre des concessions définies comme temporaires puisqu'elles ne sont que temporaires. Encore faudrait-il que le règlement final proposé soit acceptable pour les Palestiniens. Là, la dissymétrie des positions est criante. L'OLP ne peut que revendiquer un État palestinien sur la totalité des territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, l'abandon du reste de la Palestine historique étant le maximum qu'elle peut se permettre, tandis que le gouvernement Rabin refuse de s'exprimer sur le contenu de ce règlement, ne sachant pas lui-même où il veut en venir, et que les États-Unis s'alignent sur la position israélienne tout en espérant silencieusement qu'elles ne seront pas trop défavorables aux Palestiniens. Et là, on retrouve ce problème permanent dans le système politique israélien, celui des fuites. Donc, si le gouvernement ou une équipe gouvernementale définit le programme final dès maintenant, on est à peu près sûr qu'il sera fuité dans la presse israélienne dans les semaines qui viennent. Donc, à ce moment-là, ça mettrait le gouvernement israélien a faiblesse pour la négociation. Donc, on ne prépare pas le futur pour éviter les fuites, donc on reste dans l'indétermination des positions. La logique des négociateurs de Oslo est que le processus apportera un plus aux Palestiniens et aux Israéliens, ce qui leur permettra de compenser ce qu'ils sont obligés de concéder. Ils veulent s'échapper à la nature du conflit, qui est un jeu à somme nulle, dans lequel tout avantage acquis d'une partie se fait au détriment de l'autre, d'où l'importance apportée à l'amélioration des conditions matérielles. Ce n'est pas prendre en compte au nom du pragmatisme le projet national sioniste qui couvre bien l'ensemble de la terre d'Israël, d'où l'opposition véhémente de la droite et des mouvements de colons, et la nature inacceptable pour les Palestiniens du maintien d'un contrôle permanent de leur vie au nom des impératifs de sécurité d'Israël. L'aide internationale introduit de nouveaux acteurs, créant un espace multilatéral d'intervention. La Banque mondiale établit toute une série de fonds destinés à financer la constitution de l'autorité palestinienne. En octobre 1993, est ainsi créé le Technical Assistance Trust Fund, TATF, chargé des études préparatoires à la constitution des institutions palestiniennes. En novembre 1993, c'est le Trust Fund for Gaza and the West Bank, TFGWB, chargé du financement d'urgence des premières institutions palestiniennes. En janvier 1994, c'est le Holtz Fund, destiné à assurer le financement des premières années des institutions palestiniennes. L'idée générale est de créer rapidement des réalités tangibles sur le terrain, dont le financement serait par la suite assuré par la création d'une fiscalité proprement palestinienne. Comme politiquement, on ne peut pas traiter de constitution d'État, state making, on ne parle que de fabrication d'institutions, institution building, et de développement économique. Si la gestion se veut en quelque sorte apolitique, elle se heurte en permanence aux exigences contradictoires des Palestiniens et des Israéliens et à la méfiance des Américains qui souhaiteraient avoir un contrôle des financements qu'ils ne fournissent pas. Le rôle moteur de la Banque mondiale s'explique aussi par le double refus des États-Unis et d'Israël de donner un rôle à l'ONU dans la constitution de l'autorité palestinienne. Néanmoins, le réalisme impose aussi l'application des agences de l'ONU dans cette reconstruction, en premier lieu l'UNRWA, qui a pour elle la présence sur le terrain depuis près d'un demi-siècle, avec un capital d'expérience et de compétences. Donc, on a les institutions nouvelles, les fonds montés par la Banque mondiale, et à côté, les agences de l'ONU qui travaillent sur le terrain, plus les ONG en général. Donc, vous avez une multiplicité d'acteurs extérieurs qui vont intervenir dans le dossier, qui sont généralement donc des institutions internationales ou multinationales ou des ONG, etc. C'est-à-dire que ça va vraiment commencer à être peuplé, et pas seulement de Palestiniens. Pendant que les négociations reprennent d'abord en Norvège, puis en France et enfin en Égypte, avec des échanges de propositions, la violence continue dans les territoires avec des attentats contre les colons et l'armée israélienne. Les négociateurs israéliens accusent les Palestiniens de vouloir marchander en permanence et de multiplier les chicaneries au détriment de l'architecture générale de la déclaration de principe. Sans tenir compte des multiples ambiguïtés du texte, ils en donnent une lecture juridique rigide. On admet le principe d'un contrôle commun des voies d'accès au territoire palestinien sans arriver à se mettre d'accord pour savoir qui décidera en dernier ressort. Les Palestiniens restent inébranlables sur la question de l'entrée des Palestiniens de la diaspora. Pour Rabin, le 31 décembre, je cite, « Il est inconcevable que nous fassions des concessions pour ce qui concerne le contrôle aux entrées des territoires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le risque d'un afflux de 100 à 150 000 réfugiés palestiniens vers Gaza et Jéricho. Nous ne sommes pas pressés. La situation existant à l'heure actuelle dans les territoires peut rester la même. » Fin de citation. En voulant maintenir le statu quo démographique dans les territoires, les Israéliens se dotent ainsi d'un contrôle absolu sur la composition de la population palestinienne et sur l'interaction entre Palestiniens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Arafat, de son côté, exige une application précise à la lettre de l'accord. Je cite. Quand on dit retrait de Gaza et de Jéricho, cela veut dire retrait et non redéploiement. Il faut que ce soit clair pour tous, nous n'allons pas vivre dans un ghetto ou dans un bantoustan. Nous n'acceptons en aucun cas ces conditions qu'Itzhak Rabin et d'autres essayent d'imposer au peuple palestinien. Fin de citation. Toute une dramaturgie de suspension et de reprise des négociations s'installe. Une centaine de prisonniers palestiniens sont libérés en guise de geste politique de la part d'Israël. On progresse rapidement dans la question du transfert des compétences civiles. Après avoir longuement tergiversé, l'OLP signe le 7 janvier avec la Jordanie une déclaration de coopération dans le domaine économique qui reprend les grandes lignes d'un accord élaboré depuis deux mois. Ce compromis permettra l'ouverture de banques jordaniennes dans les territoires occupés et une coordination économique, mais repousse à plus tard l'examen des droits de douane et de la monnaie utilisée par l'autorité palestinienne. Toutes les ambiguïtés sont loin d'être levées entre l'OLP et la Jordanie, en particulier en ce qui concerne les compétences jordaniennes dans les lieux saints musulmans de Jérusalem. Le 13 janvier 1995, Johan Jørgen Holst, le ministre norvégien des Affaires étrangères, décède d'une congestion cérébrale. C'était celui qui avait patronné les accords d'Oslo, d'où d'ailleurs le fait que l'un des fonds de la Banque mondiale va prendre le nom de Holst Fund, comme on l'a vu tout à l'heure. Israéliens et Palestiniens se montrent affectés par la disparition de cet ami. Comme Terje Larsen passera bientôt au service de l'ONU, la Norvège va largement se désengager de la gestion politique du processus de paix, mais conservera un rôle essentiel dans l'organisation de l'aide internationale. Tout en prétendant avoir une position d'équilibre entre les Européens et les Américains, elle s'alignera pour l'essentiel sur les positions des États-Unis. À la fin de 1993, une autre négociation arrive à son terme. Le Saint-Siège a profité de la conjecture créée par la conférence de Madrid pour ouvrir en juillet 1992 une négociation directe avec l'État hébreu afin de régler les différents contentieux et arriver à une reconnaissance d'État à État. Oslo 1 a permis d'accélérer la procédure. L'accord a pour but la normalisation des rapports entre le Vatican et Israël. Le préambule renvoie au caractère unique, à la signification universelle de la Terre Sainte et à la nature unique des relations entre l'Église catholique et le peuple juif, au processus historique de réconciliation et la compréhension de l'amitié mutuelle grandissante entre catholiques et juifs. Du côté israélien, la liberté de religion et de conscience est définie selon la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres actes internationaux auxquels Israël est partie. Le Saint-Siège invoque dans ce sens les déclarations de Vatican II, Dignitatis Humanae et Nostra Aetate. L'antisémitisme et toutes ses formes de racisme sont condamnés. Le Vatican obtient que la personnalité juridique catholique selon le droit canon soit exercée pleinement en conformité avec la loi israélienne, ce qui implique un complément de négociation. En ce qui concerne le lieu saint, je cite, l'État d'Israël affirme le maintien de son engagement à préserver et respecter le statu quo dans les lieux saints chrétiens où il s'exerce et les droits respectifs des communautés chrétiennes dans ces lieux saints. Le Saint-Siège affirme l'engagement continu de l'Église catholique à respecter le statu quo et les droits mentionnés ci-dessus. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront nonobstant une interprétation au contraire de l'un quelconque des articles de cet accord fondamental. L'État d'Israël convient avec le Saint-Siège de l'obligation de continuer à respecter et à protéger le caractère propre des lieux saints catholiques, églises, monastères, couvents, cimetières et autres. L'État d'Israël convient avec le Saint-Siège d'une garantie de liberté de culte catholique. Fin de citation. Les pèlerinages chrétiens seront favorisés. L'Église catholique voit son droit à établir, maintenir et diriger des écoles et des centres d'études à tous les niveaux, en harmonie avec les droits de l'État dans le domaine de l'éducation. Il en est de même en matière de médias de communication et d'activités caritatives. Les parties négocieront de bonne foi sur les problèmes de propriété et des négociations économiques et fiscales concernant l'Église catholique en général ou des institutions ou communautés catholiques particulières. Le recours à la violence est condamné et, je cite, le Saint-Siège, tout en préservant en chaque occasion le droit d'exercer son enseignement moral et spirituel, juge opportun de rappeler, en raison même de sa spécificité, son engagement solennel à demeurer à l'écart de tous les conflits uniquement temporels, ses principes s'appliquant en particulier aux conflits territoriaux et aux frontières disputées. C'est d'ailleurs ce point-là qui est très important pour comprendre les difficultés du dialogue interreligieux actuellement, puisque l'évolution de l'Église catholique depuis un certain nombre de décennies va vers ce qu'on peut appeler une dépolitisation de l'Église. Ici, d'affirmer le principe que l'Église se tient à l'écart de tous les conflits uniquement temporels, comme celui des frontières, alors que l'islam et le judaïsme, au contraire, sont des religions qui se politisent chacun dans leur sens. Et donc, il y a des difficultés croissantes de dialogue parce que, justement, le rapport aux politiques n'est pas le même entre le catholicisme et le judaïsme et l'islam. Alors, c'est plus compliqué du point de vue de l'orthodoxie, qui est très politique en général, mais très territorialement politique. Quant au protestantisme, c'est évidemment le principe de diversité qui l'emporte, et on ne peut pas définir une position unique du protestantisme. Des relations diplomatiques seront établies au niveau de la nonciature et de l'ambassade, ce qui sera fait le 15 juin 1994. Comme le montre le texte, la priorité a été donnée à la préservation des intérêts catholiques en Terre Sainte. Le statut de Jérusalem a été volontairement mis de côté. On peut trouver une source d'inspiration dans les accords de Latran avec l'Italie, mais avec la différence considérable due à Vatican II de l'introduction du principe des libertés de religion et de conscience. Oui, ça, c'est un des grands paradoxes du XXe siècle. Autant l'Église du XIXe siècle avait condamné la liberté de religion et de conscience, autant l'Église de la seconde moitié du XXe siècle, disons à partir de Vatican II, va faire de la liberté de religion et de conscience un axe majeur de son action politique. Ne serait-ce que ça permet le droit de conversion, ce qui est important en terre d'islam, mais aussi en Israël. Donc, mais en même temps, c'est tout à fait réconfortant parce qu'on croit toujours que les positions des religions sont éternelles et inébranlables, alors que le cas du catholicisme montre qu'une religion en un siècle peut changer totalement de position, puisque la liberté de conscience était condamnée au XIXe siècle et est devenue au contraire un élément essentiel dans la seconde moitié du XXe siècle. Cet accord est très mal reçu par la droite religieuse israélienne qui fait porter la responsabilité de la Shoah sur l'antisémitisme chrétien et par le Hamas qui, dans un communiqué, condamne cet accord qui n'aurait jamais vu le jour si l'ONP n'avait pas reconnu Israël et bradé les droits des Palestiniens. Le Hezbollah adopte une position analogue. La Ligue des États arabes exprime sa vive préoccupation et sa crainte que l'article stipulant le respect du statu quo dans les lieux saints des territoires occupés ne soit interprété comme approbation de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. L'attention se concentre ensuite sur le sommet américano-syrien de Genève. Des rumeurs ont couru de l'existence de contacts secrets entre Israël et la Syrie. Elles ont été démenties par les deux parties, les Israéliens évoquant des contacts d'universitaires, ce qui est déjà en soi très surprenant, puisque les ressortissants syriens et libanais ont l'interdiction sous peine de poursuite de se trouver dans une même enceinte que des ressortissants israéliens. J'avais l'habitude dans cette période que si on avait des universitaires israéliens et des universitaires libanais ou syriens, eh bien, une partie d'entre eux disparaissait du programme. Ils étaient présents, mais leur nom n'était pas indiqué sur le programme pour ne pas donner de preuves justice libanaise ou syrienne qu'il y avait eu des Israéliens présents, puisque ça pouvait servir de preuve pour les faire condamner en justice dans leur pays. La Syrie a par ailleurs assuré depuis le début de janvier une véritable trêve au Liban Sud. Damas a expliqué au Hezbollah qu'il faut tout faire pour éviter qu'Israël ne sabote le sommet américano-syrien. Les Israéliens ont fait savoir aux Américains que la seule chose qu'ils attendaient était un signe d'Assad en faveur de la normalisation des rapports entre Israël et la Syrie. Durant l'entretien du 16 janvier 1994, Clinton cherche à convaincre Assad qu'il a dans sa poche l'engagement de Rabin d'un retrait complet du Golan, mais qu'il ne le sortira que contre un engagement d'Assad sur les arrangements de sécurité et de la normalisation. Assad veut, lui, une amélioration des relations avec les États-Unis, son pays étant toujours soumis à des sanctions pour soutien à des organisations terroristes. Clinton refuse de s'engager en renvoyant la question à une commission mixte américano-syrienne, et le président syrien reconnaît le caractère dilatoire de cette manœuvre bureaucratique. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, il rappelle que Damas est bien plus près de la frontière que Jérusalem et Tel Aviv et que ces arrangements doivent être équilibrés en prenant en compte les besoins des deux parties. Il demande un retrait israélien sur un an et non échelonné sur 5 comme l'a proposé Rabin. En revanche, il accepte de séparer le règlement syrien de celui avec les Palestiniens et le principe de relations pacifiques et normales avec Israël. Durant la conférence de presse commune, Assad est le premier à s'exprimer faisant une déclaration en arabe contenant un certain nombre de mots-clés. L'année qui vient devrait être l'année d'une paix juste et globale au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Nous avons combattu dans l'honneur et nous négocierons dans l'honneur. Nous ferons la paix dans l'honneur. Nous voulons la paix des braves et une nouvelle ère de sécurité et de stabilité pour tous dans la région. Oui, nous sommes prêts à signer la paix maintenant. La petite phrase importante est « Nous voulons une paix qui garantisse les intérêts de chaque partie et qui reconnaisse les droits de tous. Si les dirigeants israéliens ont suffisamment de courage pour répondre à ce genre de paix, il y aura une nouvelle ère de sécurité et de stabilité dans laquelle il devra y avoir des relations normales et pacifiques entre tous. » Enchanté, Clinton confirme qu'il s'agit de relations diplomatiques complètes avec ambassade, commerce et tourisme, et le président syrien ne le contredit pas. Indyk et Ross sont immédiatement envoyés en Israël pour porter la bonne nouvelle. Rabin récuse l'optimisme américain. Il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de Assad, c'est une ruse de sa part. Alors qu'il se concentre sur la paix avec les Palestiniens et la Jordanie, il ne veut pas entrer dans un processus de concession réciproque avec les Syriens. Le lendemain, Rabin lance l'idée d'un référendum en cas d'accord sur un retrait du Golan, ce qui provoque l'indignation de Damas, puisqu'il s'agit d'un territoire syrien. La droite et les pacifistes israéliens protestent également pour des raisons totalement contradictoires. Rabin fait ensuite machine arrière et déclare que l'idée de tenir un référendum est prématurée. L'autre acceptation est la reprise des conversations de Washington entre Syriens et Israéliens. Le 21 janvier 1994, le fils du président Assad, Bassil el-Assad, meurt dans un accident de voiture, ce qui rouvre la question de la succession en Syrie. L'émotion est très forte dans le pays avec l'équivalent d'une sorte de deuil national qui traduit une sorte d'inquiétude de l'avenir. Les vertus célébrées du défunt, comme la générosité et la clémence, peuvent apparaître comme une critique implicite du comportement de son père. Le second fils, Bachar, est rappelé de la Grande-Bretagne où il fait des études d'ophtalmologie. On se prépare à l'informer rapidement à la succession. Rabin fait transmettre ses condoléances par le biais des Américains. Les discussions de Washington reprennent le 24 janvier. Le même débat s'enfin reprend. Les Israéliens veulent parler de la définition de la paix avant d'aborder celle du retrait. Les Syriens, évidemment, veulent l'ordre contraire des priorités. Les Américains s'alignent sur la position des Israéliens tout en ayant des doutes sur le sérieux de leurs intentions de progresser dans le dossier syrien. Dans la interprétation des intentions syriennes se posent deux écoles. La première y voit une simple tactique pour récupérer le Golan sans aller plus loin que la simple non-belligérance, d'où le refus de Assad d'entreprendre une démarche analogue à celle de Sadat à Jérusalem. Il faut un choc psychologique de cette nature pour faire avancer. la paix. C'est ce qu'explique Rabin au journal français Libération le 28 janvier 1994. Dans une démocratie comme Israël, on ne peut résoudre un problème crucial sans l'assentiment de l'opinion, au moins de la majorité. Souvenez-vous de la paix avec l'Égypte. Elle n'a été possible que parce que le président Sadat, en se rendant à Jérusalem, a convaincu les Israéliens par son discours à la Knesset de ses intentions pacifiques. Il a ainsi effacé la haine et le soupçon accumulés durant 28 ans de conflit. Le président Assad n'a pas fait 2% du chemin parcouru par le président Sadat pour convaincre l'opinion israélienne. Quand, durant la conférence de presse à Genève, un journaliste américain a interrogé le président Assad sur le sens qu'il donne à un mot « paix », ce dernier a laissé Bill Clinton répondre à sa place. La seconde école souligne la cohérence de la démarche du président syrien qui, depuis plusieurs années, se pose en héros de la guerre, héros de la paix, mais qui n'est pas prêt à céder sur les impératifs de sécurité de son pays, ni sur son honneur qui passe par une récupération intégrale des territoires perdus. D'autre part, le caractère très fermé que le régime bassiste impose à son pays se prête mal à une normalisation qui requiert une ouverture sur l'extérieur considérée comme dangereuse pour la survie de la dictature. En tout cas, dans les premiers jours de février, le Hezbollah reprend ses opérations au Liban Sud, infligeant à Israël de nouvelles pertes de soldats, 4 tués et 5 blessés le 7 février. Ehud Barak est obligé de reconnaître la nature de la situation. Ce qui se passe ici est une véritable guerre. Nous infligeons des pertes sévères à l'adversaire, mais il est inévitable que nous en subissions. Selon le coordinateur israélien pour les affaires du Liban, Uri Lebrani, en laissant le Hezbollah dans le Liban Sud, le président Assad veut nous prouver qu'il dispose d'une carte dans les négociations. Il veut nous imposer un prix pour lever cette menace. Et voilà, vous en saurez tout pour aujourd'hui.